crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me, babe.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous regardons une œuvre surnommée L'Escargot, réalisée dans les années 90 par une artiste extraordinaire, Judith Scott. Elle fut remarquée par le directeur du centre d'art où elle était pensionnaire, Tom Di Maria, et fut commentée par l'historien et psychanalyste John McGregor aux États-Unis, notre regardeur. Les œuvres de Judith Scott sont aujourd'hui collectionnées dans de nombreuses institutions, comme le musée de Lausanne ou le LAM à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, mais aussi au SF MoMA. Elle sera l'objet d'un grand woman show au Brooklyn Museum à New York en octobre prochain. Et pour en parler, j'ai la joie de recevoir dans mon émission la grande artiste Annette Messager. Annette Messager, depuis plus de 30 ans, vous nous fascinez par votre travail. Les objets, les sculptures que vous confectionnez sont parfois les reliques de vos impulsions, les trouvailles de vos promenades, les collections de vos émotions rassemblées, reliées les uns aux autres, grandes installations suspendues dans l'espace, fragments de corps, organes qui tombent, fragments d'amis, petits oiseaux endormis emmaillotés, récits privés, impulsions érotiques, confessions faussement impudiques. Merci beaucoup d'être là. Et j'ai également auprès de moi Nanette Snow. Nanette Snop, vous êtes conservatrice au musée du Quai Branly, responsable de l'unité patrimoniale histoire. Vous enseignez l'histoire de l'art africain à l'école du Louvre. Vous avez été le commissaire d'exposition célèbre comme Recette des dieux au musée du Quai Branly, l'esthétique du fétiche, et également l'invention du sauvage, exhibition en 2011. Vous avez été commissaire associé de Maître du désordre, également au musée du Quai Branly. Vous êtes le commissaire de l'exposition inaugurale Vaudou, l'art de voir autrement, au nouveau musée Vaudou à Strasbourg. Et enfin, j'ai encore avec moi, Sandra Adam, parce que vous avez été commissaire d'une exposition de Judith Scott. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Et pour nous soutenir dans notre conversation, Bruno de Charme qui nous raconte ses rencontres avec Judith Scott. Il y a 4 ans environ, je vis une œuvre en surfant sur Internet, une sculpture. C'était une chaise bleue envahie de couleurs et d'objets amoncelés, liés, tenus entre eux par des fils, des bandes de tissu entrecroisées, nouées, et retenant un volume composite formé d'une corbeille d'osier retournée, surmontée d'une roue de bicyclette. Le volume de la corbeille évoquait un ventre, la roue une tête rayonnante et à la place des cuisses un volume dissimulait pas mal d'éléments pas très identifiables. Mais la composition colorée et la liberté de l'assemblage étaient d'une vivacité enthousiasmante. J'étais persuadé d'avoir trouvé un jeune artiste que je voulais me précipiter pour le visiter. Je fouille donc sur Internet et je tombe sur la biographie de Judith Scott. Son œuvre a commencé à l'âge de 44 ans. Elle est morte 18 ans plus tard, en 2005, après avoir réalisé une centaine de sculptures dont l'ensemble compose une des œuvres les plus originales, puissantes et selon moi importantes de la fin du XXe siècle. Judith Scott était sourde et muette et handicapée de naissance par le syndrome de Down, une sorte de mongolisme. Jeune mongolienne, elle est séparée de sa sœur jumelle, très jeune, à l'âge de 7 ans. Puis, enfermée dans une institution réservée aux attardés, elle en sortira sur l'insistance de sa sœur 38 ans plus tard et sera alors placée dans une autre institution, le Creative Growth Center, où elle commence son travail. Je regarde en formulant ces lignes une photo célèbre où elle tient dans ses bras une grande sculpture qu'elle a réalisée, une sorte d'œuf ovoïde entièrement recouverte de fils. Son visage s'appuie face, le nez écrasé contre ce grand corps qu'elle a fabriqué et auquel elle semble vouloir donner ou recevoir, dont elle voudrait recevoir un peu d'amour. Judith est déjà âgée, ses bras sont crispés sur la sculpture, ses yeux fermés, ses cheveux tirés en arrière. Et on ne peut hésiter lorsque l'on voit une de ses œuvres. C'est une œuvre de Judith Scott. Son style, son expression se reconnaissent immédiatement. Pourtant, aucune de ses sculptures ne ressemble à une autre. Elles sont diverses et pourtant très caractérisées. Et son œuvre suit à l'évidence la construction de pensées développées d'une façon très déterminée. « La sculpture que l'on va examiner aujourd'hui a été présentée aux Bernardins. Elle est grande, elle lance dans l'espace des membres inachevés et un grand volume recouvert de textiles beige et griffé par endroits par des lignes rouges et d'autres par des fils noirs. La couleur est savamment répartie, dessinant un corps lyrique, un corps ou plutôt une dépouille écorchée, écartelée, tendue vers le vide comme pour l'accueillir. C'est une sculpture dont John McGregor a parlé et dont il a décrit la construction.
Comme toujours, Judith était préoccupée par la stabilité et la solidité de la forme qu'elle était en train de créer. Travaillant avec une aiguille, elle tirait chaque fil serré, le cousant en avant et en arrière, pour qu'il puisse apparaître sur chaque facette de la forme en train d'évoluer. Pour cela, elle la retournait sur la table, afin qu'aucun côté ne devienne plus grand qu'un autre. Elle s'arrêtait régulièrement pour ressentir l'objet, vérifier avec ses mains s'il n'y avait pas des fils trop lâches, et confirmait la répartition, l'organicité de la courbe et la solidité générale. Il était impossible de l'observer dans cette exploration tactile sans ressentir la sensualité, parfois sexuelle, parfois maternelle, de ce corps qu'elle était en train d'inventer. Pendant plusieurs semaines, j'observais le processus qui faisait croître l'objet depuis son centre, m'apercevant que les extrémités fragiles étaient négligées. Le 20 juillet, un grand changement advint. Une autre pensionnaire du centre s'attacha à Judith. Cette attirance, qui ne dura qu'un jour, s'exprima sous la forme de cadeaux répétés, une avalanche de rouleaux de carton. Judith, qui paraissait au début insensible à ces cadeaux d'amour, commença à les intégrer dans son travail. Elle insérait les cônes les uns après les autres dans l'œuvre et modifiait les parties qu'elle trouvait incorrectes. C'était une indication extrêmement claire. Judith avait un but précis dont elle ne pouvait être distraite, et les nouvelles formes qui intervenaient dans son travail l'obligeaient à reprendre et corriger ce qu'elle voulait réellement obtenir comme effet. On avait l'impression que Judith répondait au hasard, l'accueillait, et à la fin parvenait à maîtriser ces curieux ajouts qu'elle avait acceptés de façon impulsive et que maintenant elle organisait, de façon à obtenir une forme qui allait apparaître au-delà du chaos. John McGregor, Metamorphosis, The Fiber Art of Judith Scott, 1999.
Bruno de Charme, vous êtes un des grands collectionneurs français de ce qu'on appelle le champ de l'art brut. Et dans votre collection, il y a des œuvres extraordinaires de cet artiste. John McGregor a été donc un des premiers à mettre en avant l'œuvre de Judith Scott. Qu'est-ce qu'on peut dire de son approche? En quoi il a été pionnier?
Alors d'abord, ce qu'on peut dire de John McGregor, c'est que c'est un personnage. C'est un personnage extraordinaire parce qu'il a fait trois grandes recherches. La première, c'était sur Henry Darger. Et en deux mots, Henry Darger vivait dans une espèce de chambre qui était un capharnaüm absolument terrifiant, puisque pendant 30 ans, il n'a jamais fait le ménage et il produisait dans cette espèce de chambres chauffées au charbon, donc noires, terrifiantes. Et John a passé, pour faire ce travail de compréhension sur l'œuvre de Darger, il a passé un mois et demi dans sa chambre, dans la chambre de Darger. Il dormait dans la chambre de Darger. Enfin, c'est unique. Bon, il est historien de l'art, il a une formation aussi de psychanalyste. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a un travail très, très, très sérieux. Donc, il a passé du temps là-bas pour comprendre, voilà, comment ça, de l'intérieur, comment l'œuvre de Darger a pu s'établir et se mettre en place. Alors, il n'a pas fait la même chose avec Judith Scott, mais il a passé beaucoup de temps avec elle, plusieurs mois, en allant la voir régulièrement, et pour essayer de comprendre comment son travail fonctionnait. C'est vraiment quelqu'un qui vraiment travaille dans l'œuvre. Alors la théorie vient, évidemment, et étaye toute sa recherche, mais il a vraiment besoin de voir l'environnement, c'est-à-dire vraiment de s'imprégner du travail. Et il a écrit une publication sur Judith Scott qui est remarquable là-dessus.
Quand on entend ce que Bruno de Charme dit de John McGregor, on se rend compte qu'il a suivi un travail qui était en train de se faire. D'ailleurs, tout son livre Métamorphosis parle de cela. Un travail en train de se faire et qu'il essaye de perturber par moments. Et en dépit des perturbations qu'il insinue dans le moment du travail, l'artiste continue à suivre son cap, à adapter les hasards et à s'organiser. Annette Messager, je voudrais vous poser une question qui me perturbe depuis longtemps à ce propos.
Moi aussi, vous me perturbez là.
Je vous perturbe. Non. Parce que
Parce que votre émission s'appelle Les Regardeurs et vous parlez d'œuvres.
Oui.
De Judith Scott. Mais pour elle, ce n'était pas une œuvre. C'est-à-dire que là, c'est vraiment nous, les regardeurs, qui font l'œuvre, qui nommons le travail ou la production. Ce n'est même pas un travail, la production de Judith Scott comme œuvre. Donc là, c'est entièrement le regardeur qui fait l'œuvre. Ce qu'elle fait est extraordinaire, ce qu'elle a fait est prodigieux. Mais comment on peut l'appeler ?
C'est toute la question est là. Annette Messager, vous avez totalement raison de le souligner. J'ai l'impression que c'est une expression à caractère symbolique, faite avec une intention, et c'est l'intentionnalité qui, selon moi, a fait œuvre. Mais je serais curieux, Nanette Snop, puisque vous êtes avec nous, d'avoir votre sentiment sur cet objet, justement, puisque c'est le sujet autour duquel nous allons tourner. Est-ce une œuvre ? Est-ce des objets faits pour des raisons intérieures qui ne seraient pas œuvres ? Toute la question est là. Donc, Nanette, quel est votre point de vue ?
Oui, bon, cette question, C'est très pertinent ce qu'Annette vient de dire, mais je pense que c'est une question qu'on peut se poser pour bon nombre d'œuvres qu'on expose dans les musées, qui reçoivent le statut d'œuvre, notamment pour les objets rituels. Donc, ici, pour moi, c'est le processus qui compte plus que l'œuvre peut-être finale. Donc, pour les objets rituels, par exemple, ces objets aussi ne sont pas faits
en tant qu'art.
Oui, en tant qu'art.
Ils sont faits pour être vus.
Mais ils sont faits pour être vus.
Les objets rituels sont faits pour être vus.
Ils sont faits pour être vus, pour servir
à
quelque chose.
Mais parfois aussi, on peut avoir des objets rituels qui sont totalement personnels et qui sont vus par la personne qui l'a créé, notamment pour les porte-bonheurs ou les objets magiques qu'on porte sur soi. Mais c'est sûr qu'on est là dans une... Voilà, sur un terrain qui peut glisser, disons.
Bah, c'est un terrain qui est d'autant plus passionnant. Annette, je ne suis pas du tout d'accord avec vous.
Oui.
Parce que... Mais c'est ça qui m'excite, d'ailleurs. C'est très intéressant. C'est Nanette Snop... Nanette, c'est pas Nanette, c'est Judith Scott.
Nanette. Il est troublé, là.
Judith Scott fait ses œuvres dans un centre...
Ses œuvres.
Fait ses objets dans un centre d'art, dans un centre de création. Entouré probablement et même certainement, puisqu'on a des films d'autres élèves, d'autres pensionnaires, de quelques professeurs,
très moches,
etc., qui font des choses horribles parfois, évidemment. Il y a très peu de grands artistes. Et ce sont des éléments de communication. Donc on ne peut pas dire que ça n'est pas fait pour être vu. C'est fait pour être vu faisant, pour être vu communiquant. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'était une communication, une telle intériorité pour elle-même. Elle avait sûrement un besoin de le faire. Parce que ce n'est pas des petites œuvres en plus. Hein. Il y en a qui sont énormes. Donc ce besoin d'enfermer, de cacher, de faire un secret. Et je crois qu'après, elle s'en désintéressait complètement de cette histoire.
Elle...
Ça m'a fait penser, parce qu'hier, je pensais un peu à ça justement, et au docteur Clérambeau.
Oui, qui faisait ses drapés, qui était passionné par les drapés, qui collectionnait.
Non seulement les drapés, c'est qu'il avait trouvé une pathologie, qui je crois n'existe plus, de femmes qui allaient dans les grands magasins voler, il fallait que ce soit volé, des étoffes, du velours ou de la soie, et dans l'escalier du grand magasin, se masturber avec l'objet et le jeter. Après, il n'avait plus aucune importance. Et il y a ce rapport comme ça. C'est quand même une pathologie très intéressante. Elle a besoin de faire ça au milieu de gens, de voler, de s'accaparer un objet, et ça procurait des jouissances extrêmes.
C'est la ritualisation du plaisir. C'est un...
Avec du tissu, comme elle, avec des matériaux, de la laine surtout, hein, je crois, puisque c'est aussi un centre de tapisserie.
Sandra Adam, vous voulez réagir, vous qui êtes historienne d'art et qui connaissez bien le travail de Judith Scott ?
En fait, au centre, au Creative Gross Art Center, c'est vrai qu'une fois qu'elle a terminé son œuvre, on sait que Judith abandonne son œuvre et demande à ce qu'on la mette de côté, à ce qu'on la mette dans un placard. Cependant, elle-même se met en scène, c'est-à-dire qu'elle porte des rubans. Il y a une sorte de rituel quand même. Il y a quelque chose
comme
de l'ordre du... Comme une performance, voilà. Elle porte des grands chapeaux.
C'est son seul moyen de communication. Je veux dire,
elle ne parlait pas.
Elle ne parlait pas, oui. Sourde, muette, et avec un QI qui était estimé dans le premier centre où elle était, avec toutes les ce que ça peut avoir de faux, de 30, et cette sorte de moment, ces 15 ans de relatif bonheur qu'elle a eu à la fin de sa vie en faisant ses œuvres, c'était quelqu'un dont la seule communication était probablement ses objets. Et quand on voit comment elle les sert contre elle, c'est qu'on voit bien que ce sont des objets transitionnels, ce sont des objets pour communiquer avec les autres. C'est pour ça que ce n'est pas des objets pas faits pour être vus, c'est des objets désirant la communication. Et là-dessus, Sandra Adam, peut-être vous pourriez nous rappeler quelque chose, c'est que je crois, et d'ailleurs John McGregor le suggérait, que les objets étaient volés et inclus dans le travail. Est-ce juste ?
Oui, alors c'est la raison pour laquelle on avait intitulé l'exposition au Bernardin « Objets secrets », justement. En fait, ce qui est amusant dans son histoire, c'est qu'il paraît qu'elle dérobait des objets dans le centre où elle était, et qu'ensuite elle les recouvrait de ces entrelacs de fils. Alors on a parfois radiographié des œuvres d'ailleurs, et on s'aperçoit qu'on trouve à l'intérieur des cartons, des branches, et même parfois une fiche de paye, donc sûrement qu'elle a trouvé abandonnée sur une table, un skateboard, une chaise.
Les objets souvent qu'elle vole à des personnes qu'elle désire ou dont elle veut être aimée. Donc ces objets, est-ce qu'on crée souvent pour être aimé, Annette Messager ?
On veut être aimé par tous les moyens, mais... Justement, elle n'a jamais pensé montrer. Est-ce qu'elle avait un rapport, puisqu'elle se débarrassait complètement, elle oubliait ses objets, ça c'est vrai, elle les jetait presque, enfin ça ne l'intéressait plus. Contrairement aux artistes, par exemple, moi, ce que je fais, ça reste 6 mois chez moi, et c'est vraiment à moi, et ça... Et je les chouchoute et je les aime beaucoup. Et puis après pendant l'exposition, même c'est fini, quoi. Ils sont plus à moi. Je dirais, c'est un peu pompeux de dire une transmission, mais voilà, c'est fini, c'est parti, ça ne compte plus. Il faut faire autre chose.
Je ne veux pas faire des relations exagérées, mais Nanette Snop, il y a beaucoup d'objets chamaniques puissants, quand je dis chamaniques, ou rituels, disons, qui sont à leur tour, on peut le dire, chez les Esquimaux par exemple, pour beaucoup d'objets rituels, détruits ou abandonnés ou laissés pour compte, l'usage terminé. Est-ce que c'est comparable ?
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'objets magiques éphémères qui sont juste faits pour, pendant par exemple, pendant un rituel, lorsqu'un patient vient voir un prêtre, un chaman, on peut fabriquer un objet qui peut fonctionner pendant un certain temps, et puis une fois le problème est résolu, on peut jeter l'objet et ne plus, ou alors on peut le réutiliser pour un objet suivant et le transformer entièrement. Donc, cette notion d'éphémère est très importante pour les objets magiques. Ils ne sont pas toujours là pour survivre des siècles.
Vous jouez beaucoup, Annette Messager, avec la magie, magie de pacotille ou vraie magie, je ne sais pas.
La magie, j'en sais rien.
Mais ça fait partie de votre répertoire de sujets, si je puis dire.
Non, c'est vous qui le dites.
Non,
simplement, je suis au milieu de mes objets, je les touche beaucoup, je les manipule. Je leur parle ou je fais des petites danses comme ça, mais pour moi c'est des jeux de ma vie, donc je vois pas de magie. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, et dans ce qu'on appelle les outsiders, j'ai horreur de cette expression d'art brut, parce qu'il n'y a rien.
Mais pourtant, ce que vous disiez tout à l'heure m'a frappé, parce que je trouvais que vous essayiez de la cantonner dans le monde de l'art brut, c'est-à-dire un monde dans lequel l'objet soit fait presque par hasard.
Ah non, par hasard, pas du tout. Au contraire, là, c'est une vraie nécessité. C'est une vraie nécessité, mais c'est un artiste, c'est autre. Justement, ce qui est beau, c'est que ce n'est pas datable, ces œuvres. C'est-à-dire que il y a rien de pire qu'un artiste où on dit c'est un très bon artiste conceptuel des années 70 anglais. Alors ça, je trouve ça horrible. Mais là, les matériaux de tous ces gens, c'est des dessins, des fils, des tissus, de la récupération.
Alors, c'est vrai, je sais qu'il y a une artiste, son nom m'échappe tout de suite, Tripier, non ?
Oui, que Jeanne Tripier.
Jeanne Tripier, que vous aimez beaucoup, qui est une artiste.
Qui a fait sa robe de mariée, qui faisait des broderies.
Dont le langage n'est pas très éloigné de celui de Judith Scott. Néanmoins, quand vous regardez une œuvre de Judith Scott, vous savez qu'elle est de la fin du XXe siècle. Elle n'est pas du XIVe, du XVIIe.
Parce qu'il n'y a pas d'œuvre d'art brut du XIVe siècle. C'est-à-dire que tout ça, ça a été jeté. Il n'y a pas d'œuvre quasiment du XIXe. Les dessins de Victor Hugo, parce que c'était Victor Hugo, je crois que si ça avait été un inconnu, ces dessins auraient été jetés.
Écoutons Tom Di Maria, directeur du Creative Growth Art Center à Oakland, près de San Francisco, qui a accueilli Judith Scott, témoigner.
On se demande toujours si, chez les artistes bruts, leur passé, leur vécu est important et en quoi il a influencé leur travail de création. Il se trouve que Judith a connu un trajet plutôt pénible, un passé singulièrement douloureux, que je vais évoquer maintenant. Elle a eu une sœur jumelle, avec qui elle a passé les 7 premières années de sa vie, avant qu'on ne les sépare. Puis elle a été placée en institution, étant donné les handicaps dont elle souffrait. Elle a été, pour ainsi dire, coupée du reste du monde. Elle a grandi dans un espace sévèrement délimité, sans pouvoir communiquer, dans une petite chambre, sans voir sa famille. Et bien plus tard, environ 40 ans après, lorsqu'elle quitte cet endroit, quand sa sœur vient la chercher pour l'emmener dans ce centre artistique, la tragédie personnelle de Judith et son histoire tout à fait originale l'amènent véritablement à ce travail de création unique. Et cette opportunité rare qu'elle nous offre de nous questionner nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous pousse à être artistes, à avoir cette volonté de communiquer à travers la création artistique? Je pense que Judith a eu cette volonté depuis toujours, sans avoir eu la possibilité de l'exprimer. Vous voyez, c'est l'art en premier, l'histoire ensuite. Les gens ont le sentiment que lorsque vous vous intéressez à un artiste handicapé ou à un artiste brut, vous donnez une grande importance à son histoire. Mais on connaît bien l'histoire de Picasso, celle de Van Gogh ou celle de Warhol. Mais vous êtes bien d'accord, leur histoire fait partie de leur travail. Ce n'est pas leur histoire qui rend leur travail magnifique, mais elle nous aide à apprécier et à comprendre leur travail. Voilà, je pense que c'est aussi le cas pour Judith.
Annette Messager, nous ne sommes jamais d'accord. Il y a un mot que j'aimerais que vous commentiez, qui n'est pas formulé exactement comme ça, mais ça veut dire peut-être cela, et ça a sans doute un rapport avec notre débat. Malraux, quand il parle de l'art brut, dit au fond la différence, s'il y en a une, c'est que l'artiste brut est sourd, c'est-à-dire sourd aux autres. Il ne répond pas à l'art des autres et de son époque. Est-ce que ça serait cette surdité à ses contemporains qui ferait la particularité de cette création de Judith Scott ?
Ben là encore, je ne suis pas d'accord parce que...
C'est de mauvaise humeur, j'ai l'impression.
Par exemple, dans le cas d'Aloïse, j'aime beaucoup... Aloïse Corvat, je crois elle s'appelait. Et elle, elle avait rencontré, je ne sais plus, le prince. Et donc, elle dessinait elle dessinait le prince, elle était amoureuse du prince. Et au contraire, beaucoup de ces artistes regardent les journaux, les images, les reproduisent, recopient des choses...
De leur temps,
d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas vrai qu'ils sont... Mais dans son cas, elle, parce que justement, beaucoup moi, je dis, au Brésil, on appelle l'art brut l'art vierge.
Oui.
Ce que je trouve beaucoup plus juste.
C'est très beau.
Beaucoup de ces artistes sont figuratifs. La plupart sont figuratifs. Peut-être pas les femmes, justement, qui font des sortes de broderies, de tissages un peu bizarroïdes.
Elles font des corps.
Peut-être, justement, qu'il y a une question de corps dans le... Et là... C'est complètement, je dirais pas informe, mais elle cherche pas la figuration, elle cherche à cacher ou bien en coconner des choses. Je ne sais pas si dans son travail, je ne connais pas assez, parce que souvent, ces artistes, il n'y a pas de progression dans leur travail. C'est, ils ont une obsession qui décline, qui ça change un peu, mais il n'y a pas de progression.
Non.
C'est la différence avec les artistes.
C'est vrai qu'il y a, c'est un point assez notable. Il y a, même si chez Judith Scott, aucune sculpture n'est semblable à l'autre, on sent qu'il y a dans le peu de qu'elle a fait une évolution, mais une exploration d'un même territoire avec des signes plastiques un petit peu différents, un petit peu évolués. Mais il ne s'agit pas d'une évolution comme d'une progression de la conscience vers une autre forme, qui l'amènerait vers une autre forme. Mais vous savez que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous non plus sur ce que vous dites sur les femmes. Je pense souvent, comme Marcel Duchamp, que la différence sexuelle est une illusion d'optique. Et je voudrais demander à Nanette Snop, justement, si, de ce point de vue, il arriverait que les femmes aient un rôle particulier dans la constitution des paquets magiques, des fétiches, que vous pourriez nous...
Non, les femmes pas plus, non, c'est pas... lorsqu'on regarde les paquets magiques, que ce soit en Amérique ou Asie, je réfléchis là à haute voix, c'est pas plus particulièrement féminin, c'est plutôt en Occident que j'ai l'impression, effectivement, dans l'art brut, où on voit beaucoup, justement, où le fil, la pelote de laine est beaucoup, beaucoup utilisée. Mais dans les objets magiques, je ne vois pas... non.
De fonction non. particulière des femmes.
Mais là, on sort de notre sujet, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais vous, qui êtes très érudit, vous allez me dire. Donc, dans les grottes préhistoriques... En fait, les dessins qu'on a trouvés, c'est les femmes qui les faisaient. Donc, ça serait les premières artistes. Parce que les hommes partaient chasser, et elles restaient dans la maison et tout ça. Et c'est elles qui auraient fait les dessins.
Comment en être sûr, sincèrement? Mais il est vrai que je l'ai entendu formuler déjà, oui. Cette hypothèse.
Oui.
Et pourquoi pas? Et au fond...
Bah, sûrement.
Non, mais ça ne me surprendrait pas particulièrement. Je voudrais revenir sur un point. Donc, je pense que notre conversation, quand même, vous a fait avancer, Annette Messager, et que maintenant, vous ne pensez plus qu'elle n'a travaillé que pour elle et que ce ne sont pas des œuvres d'art.
Ah, je pense qu'elle n'a travaillé que pour elle.
Est-ce qu'un artiste ne travaille que pour lui? Est-ce que vous ne travaillez que pour vous, pourrais-je vous demander,
non,
d'ailleurs?
Non, ça c'est justement très compliqué, parce que je me souviens très bien, quand j'étais jeune, j'ai décidé, et voilà, tu fais des trucs pour toi, mais tu as envie d'être artiste professionnel. Donc c'est là où...
C'est la tout décision, à fait,
oui,
la question
c'était
de la décision.
Vraiment une décision. Donc je vais aller à des vernissages, je veux rencontrer des gens, je veux... Donc, un artiste, c'est ça. Il fait ses choses plus ou moins pour lui, plus ou moins... Il est forcément influencé par ce qu'on en dit, forcément, même s'il ne veut pas.
Ce que vous dire, c'est que la nécessité intérieure n'est pas le seul élément qui le fait, qui le meut à
Absolument.
Ce moment-là. C'est aussi une décision, un projet et une vie...
professionnelle, un mot horrible.
Non, mais c'est juste.
Mais c'est comme ça. Si on fait partie des institutions... Et ce qui n'est pas non plus dans votre travail des arts primitifs.
Là, vous parlez à Nanette Snop. Est-ce qu'il y a une décision de la part du féticheur
Le féticheur, il le fait pour lui, il le fait pour son patient, mais il fait ça aussi pour impressionner les adeptes de telle et telle religion. Mais justement,
est-ce qu'il n'a pas décidé, à un moment donné, lui, comme un artiste, d'accepter ce rôle?
Oui. Et justement, il y a un exemple assez intéressant. Il y a quelques années, que j'ai rencontré un prêtre vaudou au Togo. Et normalement, lorsqu'on visite des hôtels vaudous au Togo, au Bénin, au Nigeria, ce sont toujours des hôtels avec des accumulations extrêmement impressionnantes. Et chez cet homme-là, ce prêtre vaudou, il n'y avait absolument rien. Strictement rien, et il nous expliquait en fait pour lui que les fétiches étaient en lui, mais qu'il avait un très grand problème justement avec ses patients et les autres adeptes qui avaient besoin d'être impressionnés et qui nous disaient que parfois il se sentait presque obligé de fabriquer des œuvres, et là c'est presque des œuvres, pour justement faire adhérer son public à sa religion. Or, lui, il disait pour lui qu'il n'en avait en fait plus besoin.
En fait, le regardeur a besoin de la preuve de l'élection du prêtre ou du féticheur pour être sûr de son pouvoir.
Tout à fait.
En fait, hein, donc voilà.
Et puis, je crois qu'un artiste, c'est un peu pompeux ce que je vais dire, mais excusez-moi. J'ai l'idée que la transmission, c'est quelque chose de très important. Que j'ai eu des pères, des mères, des grands-pères, une culture. Et que quand on veut transmettre quelque chose...
Vous me permettez, je voudrais justifier pour nos auditeurs le fait que j'ai demandé à l'excellente Nanette Snob d'être avec nous, parce que je ne voudrais pas qu'on croie qu'il y a un malentendu sur le fait que, parce que c'est de l'art brut, c'est du fétiche ou c'est de la sorcellerie. Et ce n'est pas parce qu'on vous appelle souvent sorcière, Annette Messager, qu'on parle de ça. C'est parce que votre travail, comme celui de Judith Scott, comme celui de certains chamans, des objets fournis, utilisés par certains chamans, ont une particularité singulière qui est celle de nous atteindre. C'est-à-dire que lorsque j'ai vu des spectateurs visiter, des visiteurs voir l'exposition de Judith Scott au Bernardin qui avait fait Sandra Adam, je les ai vus atteints, c'est-à-dire bouleversés, changés, en larmes pour des raisons incompréhensibles. Et au fond, la question est comment est-ce qu'un objet fait par un artiste ou un objet qui doit être puissant, fait par un chaman, puisqu'il doit soigner ou guérir, ou un objet d'art fait par cet extraordinaire artiste, je ne peux pas l'appeler autrement, nous atteint. Qu'est-ce qui fait qu'un objet est actif dans le regard du regardeur?
Mais, en même temps, quand Brassai prenait des photos de graffiti, qui étaient parfois extrêmement beaux, encore, je ne sais pas ce que veut dire ce mot « beau », vous qui avez travaillé sur la beauté. Je n'ai jamais trouvé le sens de ce que ça voulait dire. Mais il a été touché par la beauté de ce graffiti. Il en a fait des photos formidables. Donc, on n'est pas seulement atteint que par des œuvres d'art, ou pas seulement.
Alors, Sandra Adam veut réagir là-dessus avant Nanette, peut-être, Sandra Adam.
Oui, j'avais l'impression que comme un sorcier, finalement... Judith Scott, lorsqu'elle orchestre tous ces éléments hétéroclites en un objet, à travers une langue qui n'appartient qu'à elle, cette langue secrète, elle fait justement un acte bricolé. Je ne sais pas si Nanette peut nous parler de l'idée de bricolage en anthropologie. C'est-à-dire que ces œuvres, même si elles n'évoluent pas, c'est vrai, c'est ce que disait Annette, c'est-à-dire qu'on a des œuvres qui vont de 30 cm jusqu'à 1,20 m, elle intègre au fur et à mesure différents éléments qui lui sont proposés à l'intérieur de son œuvre. Et donc on a l'impression qu'elle bricole selon les contextes, selon les circonstances, selon ses amitiés, c'est ce que disait le John McGregor dans son texte, différents éléments. Est-ce que Nanette peut nous parler de cette idée de bricolage en anthropologie?
Oui, c'est cette idée de bricolage, cette idée d'accumulation, ce sont vraiment des objets d'histoire, hein, qu'on émaillote, on perce avec des clous, des aiguilles, on des enchevêtrements de fils. C'est aussi cette force de l'objet. Lorsqu'un objet est fort, qu'est-ce que c'est un objet fort? Mais c'est aussi toujours cette idée pour moi d'accumulation, ce qui est très fort chez Judith Scott, parce que lorsque j'ai vu cette exposition de Judith Scott, j'étais vraiment incroyablement touchée par cette œuvre. Et effectivement,
mais vous voulez dire que le bricolage fait partie de...
Je ne sais pas si c'est le bricolage. Pour moi, il y a un côté, cet effet de secret de l'objet, cette accessibilité et inaccessibilité à la fois, ce côté caché, mais pas totalement. Donc, on révèle une partie de l'œuvre. C'est ça qui fait cette puissance, je trouve, dans l'œuvre de Judith Scott, où on peut voir aussi chez Annette Messager, ou dans un objet, une petite pierre entourée de fils qu'on peut trouver chez un adepte vaudou.
Écoutons Bruno de Charme parler à nouveau de Judith Scott.
Alors, en fait, tout vient d'une rencontre que j'ai eue avec Tom Di Maria en 1998 ou 1999. Et Tom est le directeur de Creative Growth à Auckland, un centre d'art qui accueillait Judith Scott. Et puis Tom venait d'arriver d'ailleurs à cette période. Et puis on s'est rencontrés à New York comme ça. Puis il m'a montré cette œuvre qui était en fait absolument pas connue. Enfin, elle était connue aussi de John McGregor, qui est un historien de l'art, qui a fait tout un travail de recherche et d'analyse de son sur elle. Mais il y avait aucun collectionneur qui jusqu'ici s'en était occupé. Et puis voilà, Tom m'a montré cette œuvre et ça a été évidemment un coup de foudre, parce que quand on voit une œuvre comme ça, c'est exceptionnel. Et puis j'ai acheté deux œuvres, dont une très belle qui est probable, enfin qui est en tout cas sa plus grande œuvre et la, pour moi la plus spectaculaire, qui est une espèce de forme d'escargot. Après ça, chacun y mettra son propre rêve et projection. Voilà, et j'ai rencontré après ça Judith Scott en, je crois, 2001, je suis pas sûr des dates, mais enfin c'est autour de ça, où je l'ai vu travailler, où j'ai passé 3-4 jours au centre. Et ça a été évidemment un choc, parce que c'est une artiste exceptionnelle.
Donc le Creative Growth Art Center, il se situe à Auckland, aux États-Unis, près de San Francisco. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du système qui est élaboré dans ce centre ?
Alors déjà, il faut savoir que ce type de centre n'a strictement rien à voir avec ce qu'on entend en Europe, en France plus exactement, avec l'art-thérapie. C'est-à-dire que l'objet de ces centres sont vraiment des lieux d'accueil où un confort est mis à la disposition de ces artistes, un peu d'un genre particulier, puisqu'ils ont tous des problèmes psychiques, pour faire court. Mais vraiment, tout est mis à leur disposition. Il y a même des animateurs qui sont là, mais qui sont là comme conseil à prendre ou à ne pas prendre. Par exemple, Judith Scott n'écoutait absolument aucun conseil. Elle faisait son truc dans son coin avec une personnalité, une concentration extrême, et il n'était pas question qu'on lui donne le moindre conseil. Il fallait vraiment la voir travailler. Déjà, il y avait un espèce de rapport d'elle dans la manière dont elle s'habillait, les couleurs, puisqu'elle mettait des vêtements qui correspondaient au travail, des turbans, des chapeaux, enfin tout ce qu'on peut imaginer de couleurs qui correspondaient à l'objet qu'elle allait produire. Alors est-ce que c'était l'un qui influençait l'autre ? Est-ce que c'est le matin où elle se mettait du vert et du violet et que dans la journée elle travaillait ses œuvres en vert et violet, ou le contraire, on ne saura jamais. Mais enfin, toujours est-il qu'il y avait vraiment un vrai travail d'osmose entre ce qu'elle était physiquement et son travail. Et d'ailleurs, toute l'œuvre de Judith Scott, c'est ça, c'est vraiment un travail du geste, du corps, qui est totalement impliqué. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la fabrication. Est-ce que c'est la fabrication d'elle-même ? Est-ce que c'est la répétition d'elle-même ? Est-ce que c'est... Enfin voilà, on est dans ce type de process, et c'était vraiment très très impressionnant de la voir, quoi.
Il y a une histoire assez amusante. Il paraît qu'elle volait des objets et qu'elle les cachait à l'intérieur de ses œuvres.
Alors oui, c'est vrai qu'elle se, tout d'un coup, elle croyait voler. Enfin, en tout cas, elle prenait ce qui lui tombait sous la main, et puis elle aurait pu très bien ouvrir un placard pour aller piquer quelque chose, un porte-manteau ou un abat-jour ou voilà. Et en fait, toutes ces œuvres, effectivement, sont constituées de ces objets. Alors, disons volés. Mais ce qui est tout à fait passionnant, c'est que elle les emmaillote, elle les emballe, elle les protège, mais en même temps, elle en fait quelque chose d'autre. Et ça, c'est formidable. C'est pas un simple emballage. C'est que tout d'un coup, il y a un phénomène de métamorphose qui fait que l'objet prend corps dans un autre corps. Il y a vraiment un espèce de rapport d'intimité et d'embrassage de l'œuvre qui est extrêmement forte.
Il y a une œuvre de Judith Scott dans votre collection qui s'appelle, qu'on surnomme en tout cas, l'escargot. Et dans le livre historique de McGregor, on voit comment a été fabriquée cette œuvre.
Alors, cette œuvre est fabriquée là, au départ, enfin, elle a pris des branches. Donc ce sont des branches qu'elle a commencé à fixer entre elles, toujours avec du fil de laine, qui est en majorité dans cette œuvre blanc et rouge. Et puis elle a rajouté des espèces de tubes en carton, et puis d'autres branches, et puis d'autres choses que je ne sais pas, parce que j'ai pas vu toutes les photos. Mais voilà, donc elle surrajoutait les choses comme ça, et cette espèce de forme un peu anthropomorphe, animale, enfin on sait plus très bien ce que c'est, finalement s'est mis à se constituer petit à petit. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un moment, l'œuvre est terminée. C'est-à-dire voilà, c'est fini, ça l'intéresse plus du tout. Elle emballe, faut surtout pas s'approcher, puis à un moment c'est fini, elle le jette et c'est terminé, et on en fait ce qu'on en veut. Ça la concerne plus du tout. C'est-à-dire vraiment la chose est faite. C'est-à-dire que c'est vraiment, sans mauvais jeu de mots, on n'est pas dans l'art, mais on est vraiment dans la fabrication de l'être. C'est vraiment une affaire ontologique tout ça. C'est-à-dire une fois que c'est fait, ça n'intéresse plus. Voilà, la chose existe, est, elle est présente, c'est une création avec un grand C, mais après, voilà, le travail est fait.
Mailloté, protégé, bricolé. Vous dites parfois à Annette Messager que vous tripatouillez, vous aussi.
Oui, et elle utilise beaucoup la laine, ce qui m'a vraiment touchée quand j'ai découvert au Collège des Bernardins. J'ai été aussi... Parce que c'est en même temps très simple. C'est d'une simplicité, d'une évidence. Et le rapport avec la laine, j'ai tricoté pour des petits moineaux morts, pour les réchauffer. Et puis j'ai beaucoup utilisé la laine détricotée, d'ailleurs au musée du Quai de Branly, d'une laine qui a protégé, qui a le corps, qui l'a rendu plus chaud, plus. Et la laine détricotée, c'est un côté écriture qui est très très beau, donc. Sur des photos de morceaux de corps, j'ai inclus comme ça des morceaux de laine un peu, pour moi, dans une forme un peu tantrique. Enfin, personne n'y voit ça, mais...
Vous le voyez.
Mais on fait ce qu'on veut.
Je vous ai entendu hors micro tout à l'heure interroger Nanette Knop sur la question du bricolage chez Lévi-Strauss. Est-ce que ça a une relation avec ce dont nous sommes en train de parler, Nanette ?
Il y a quand même chez Judith Scott ce qu'on voit, c'est cette idée du bricolage, ce rassemblement d'objets qu'elle vole, qui sont des objets personnels. Il y a cette idée de hasard aussi. Mais est-ce que c'est pour nous un hasard, cette accumulation d'éléments qui sont rassemblés ou pas? Ça reste aussi une... Il y a là aussi une part de secret aussi. Il y a la question du hasard dans le rassemblement, en fait, des éléments qu'elle émaillote ensemble. Et puis, un côté très pensé, je pense, de sa part, mais que peut-être on ne saura pas exactement.
Alors, j'ai une question à vous poser, Sandra Adam. J'espère vous faire bredouiller. Est-ce que Judith Scott, que je considère comme une des plus grandes artistes du XXe siècle, sait qu'elle est artiste?
Je pense qu'il y a à la fois...
Annette Messager me tire la langue parce que Sandra Adam ne bredouille pas.
Je continue. Je pense qu'il y a à la fois, donc c'est ce que je rappelais tout à l'heure, une mise en scène consciente malgré tout de sa part, puisque elle s'attiffe, elle revêt des grands turbans, comme le rappelait Bruno, des chiffons sur sa tête qui sont presque...
Bruno de Charme qu'on entendait tout à l'heure,
qui rappelle les couleurs des œuvres qu'elle est en train de faire. Donc il y a malgré tout comme ça quelque chose de l'ordre du conscient. Après, évidemment, de par son handicap, on ne saura jamais ce qu'elle a voulu dire. Malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a peut-être l'idée d'une conjuration dans son œuvre, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les artistes du champ de l'art brut. On oublie souvent qu'il y a une intention chez certains artistes bruts. Alors, Judith Scott était muette, donc on n'a pas de traces. Malgré tout, il y a certains artistes, comme je pense à George Weiner, qui faisait des systèmes de chiffres pour faire tenir le monde, ou même Kochek, il me semble que vous avez vous-même montré au Palais de Tokyo, qui, par un système de cartographie enchevêtrée, tente lui aussi de résoudre un problème. Donc je me demande quand même, malgré tout, s'il n'y a pas quelque chose de flagrant dans la puissance de ces objets, dans la manière dont elle les tient, dans son rapport à sa sœur, qui est quand même présente tout au long de sa création, s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la conjuration qui est assez flagrant dans son œuvre.
Vous le ressentez aussi, Annette Messager?
Mais en tous les cas, dans cette photo qui est très étonnante, où elle l'entoure, elle entoure ce qu'elle a fait comme ça. C'est très beau, mais c'est comme si elle voulait rentrer elle-même dedans. Moi, j'y vois un truc, justement, elle avait une jumelle, elle était malade, comme si elle voulait de nouveau être être enfanté.
Probablement, oui. C'est une photo qui est absolument bouleversante. J'invite les auditeurs à la regarder
elle
sur
est dure,
Internet.
Cette photo.
Elle est très dure. Elle tire les larmes quand on la voit, tellement elle est émouvante. Hein. Il y a une relation, effectivement, de jumelage avec l'objet. Ouais, quelque chose comme ça. Vous le ressentez aussi, Nanette Snop?
Ah oui, oui, oui. C'est presque comme si elle tient dans ses bras une sorte d'embryon. Il y a quelque chose vraiment avant la vie aussi, qui, comme si elle reprend en fait le chemin pour se mettre dans le ventre de sa maman avec sa sœur jumelle.
Et dans il y a quelque chose aussi. Les jumeaux.
Ah oui.
C'est très compliqué. Hein.
Oui, 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 oui. C'est les jumeaux sont justement très souvent considérés aussi comme des sortes de demi-dieux.
Oui.
Dans quel d'un point de vue général, vous voulez dire, Nanette, ou bien dans une civilisation particulière?
Il y a beaucoup de cas où justement les jumeaux ont un rôle très spécial dans la société. En Afrique de l'Ouest, où justement les naissances gémellaires sont trois fois plus importantes, ou peut-être sept fois plus importantes qu'ailleurs dans le monde, notamment au Nigeria, et au Bénin et au Togo, où justement les enfants jumeaux sont considérés comme des demi-dieux. Et lorsque un meurt, la mère est invitée à faire créer un autre objet qu'elle habille avec des habits de son enfant décédé et qu'elle va aussi soigner, parler, caresser. Et moi, ça me fait penser un peu à ça, à cette photo, lorsque je le vois. Cette relation, justement, entre un bout de bois avec des fils habillés et un être humain. Et ici, cette expression de Judith Scott qui tient cette masse presque informe dans ses bras. Moi, ça me fait beaucoup penser à des statuettes qu'on appelle des ibijis qu'on peut trouver en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est sûr qu'ici, il y a quelque chose. Elle retrouve peut-être une union avec sa sœur jumelle.
Annette Messager, je vous vois intéressée par ce propos.
Ben oui, non. Oui, c'est... Les jumeaux, c'est un peu comme des ventriloques. Vous savez, je m'intéresse beaucoup aux poupées ventriloques. Où c'est très désagréable, c'est très amusant, c'est grotesque, c'est un ventriloque. Et puis de voir cette voix passer dans l'autre, dans cette effigie, de toute manière, toutes les effigies, toutes les représentations, les marionnettes, tout ça, ça a toujours un côté un peu grotesque, un peu effrayant, ces représentations de nous-mêmes. Et cette espèce de double du ventriloque, de l'humain et de la poupée qui parle avec cette voix cassée, c'est très... Et je m'étais intéressée justement, je sais pas pourquoi d'ailleurs, aux jumeaux dans des représentations de sculpture africaine. J'ai été très, très stupéfaite.
Mais aussi, je trouve aussi, lorsqu'on voit cette photo avec Judith Scott, parce que je l'ai là sous les mains, c'est aussi un peu, elle est comme si elle met dans ses bras son propre désordre, tu vois. Elle, c'est ça qui, c'est vraiment l'expression du désordre aussi qu'elle a dans ses bras, comme si elle montre vraiment son intérieur, ses propres tripes en quelque sorte. Et c'est ça, le côté lisse de sa peau. Face à cette masse informe qu'elle tient dans ses bras, c'est...
Je ne sais pas si c'est vrai, Sandra, mais souvent, elle mettait deux objets, qu'elle enfermait deux objets ensemble, j'avais lu quelque part.
Elle enferme différents objets, en fait. C'est une accumulation d'objets à l'intérieur de ses fils.
Il
n'y
a pas un objet ?
Il n'y a jamais un seul objet.
Il y a
c'est toujours un assemblage. Oui, tout à fait.
Sur la mi-côte, c'est le printemps, et voici que la barbe reverdit, s'en tisse le fil un lundi à la fin de la semaine, sans barbe tout le pays. J'ai parcouru le lit de
la barbe de nuit, il en route.
Dubuffet, nous entendons la musique de Dubuffet, que vous avez beaucoup aimé, je crois, Annette Messager.
Ah oui, c'est un très très grand artiste. Et alors lui, il a vraiment fait, si je puis dire, la promotion de l'artiste en leur piquant énormément de choses, particulièrement à Chessac. Il y avait des histoires quand même assez terribles entre eux. Ils se sont écrits, Chessac était assez... Il y avait une sorte de jalousie d'artiste.
Annette Messager, vous parliez, et c'était assez passionnant, de cette figure qui était d'ailleurs dans votre dernière exposition à la galerie Marianne Goodman à Paris, du ventriloque, de la poupée de ventriloque. Et en fait, je me demande si dans l'interprétation, et peut-être la surinterprétation, nous n'avons pas résisté à faire pendant cette émission des objets de Judith Scott, il n'y a pas cet effet curieux que l'œuvre serait elle-même une poupée de ventriloque qui n'attend que notre voix pour bouger. Qu'en pensez-vous ?
Ce que je pense en tous les cas, ce qui est intéressant des ventriloques, c'est que j'ai un petit peu, justement parce que je me suis demandé pourquoi ça m'intéressait, c'est que c'est en même temps des bébés, des enfants et des vieillards. Il y a les deux. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que vous êtes.
On ne cesse jamais d'être un enfant. Et nous aurons peut-être un jour la sagesse du vieillard, qui n'a pas du tout le même statut en Afrique, Nell Snop.
Oui, le statut du vieillard, le vieillard a beaucoup plus de mérite, de respect, pas de mérite. Il est beaucoup plus respecté bien dans les sociétés non occidentales qu'ici, ça c'est sûr.
Je trouve que vous ne nous avez pas vraiment répondu tout à l'heure sur ce qui rendait un objet actif, mais peut-être que lorsque vous regardez les œuvres d'Annette Messager, que vous connaissez bien, les gants percés de crayons, les poupées percées de tiges, parfois...
Pas de poupées, jamais. Des peluches, des peluches. C'est très différent.
Oui. Pourquoi est-ce différent, Annette ?
Ben d'abord parce qu'une poupée, c'est sexué, tandis qu'une peluche, non. Une peluche, c'est mou, on peut la déformer, on peut la triturer.
La torturer ?
La torturer. Remarquez, belle-mère, lui, ses poupées, il les torture bien, ses grandes poupées. Mais non, les poupées, ça ne m'intéresse pas, aujourd'hui.
Mais néanmoins, vous, donc, je vous laisse demander à Nanette Snop ce qu'elle pensait de ces objets percés de crayons, de ces...
Oui, parce que pourquoi moi je me suis intéressée à l'œuvre d'Annette Messager, c'est que j'ai retrouvé les mêmes gestes dans une grande partie, dans énormément d'objets rituels, justement ce côté qu'elle perce, qu'elle émaillote, qu'elle aussi ces assemblages de matériaux, vos petits oiseaux que vous avez émaillotés, c'est tout ça, je pense que cette idée aussi d'assemblage, d'accumulation et de gestes différents comme percer, clouer, rembourrer, enfiler, tous ces processus, tous ces gestes font que l'objet devient actif, que ce soit un objet purement artistique, comme chez vous, ou que ça devient un objet magique, par exemple, en Afrique ou ailleurs.
Mais par exemple, il y a des objets
qui sont quand même
dans ces objets, il y en a qui, Jean de Loisy dirait, qui sont plus beaux que d'autres.
Oui, pour moi, bon, je mets.
Merci de cette pique. Hein. Continuez.
Pour moi, c'est pas vraiment le beau là. Voilà, c'est moi ce qui m'intéresse dans ces objets et justement aussi dans votre œuvre qu'on trouve dans où le gestuel de l'artiste est extrêmement voyant. Je ne sais pas si je m'exprime bien.
Non, c'est pas clair.
Non, c'est pas clair.
Essayez encore.
C'est vraiment les pour moi, lorsque je regarde l'œuvre d'Annette Messager ou l'œuvre de Judith Scott ou par exemple une petite statuette enveloppée perçue de clous et de lames, qu'est-ce que je vois ? Ce sont les gestes de l'artiste.
Sa violence, son
agressivité. Ses sentiments. Donc c'est là aussi, tout à l'heure, ce qu'a dit aussi Sandra, cette notion de conjuration que moi, en regardant l'œuvre d'Annette Messager, moi j'ai toujours... Et pour moi, cette idée de conjuration est aussi dans votre œuvre.
Une volonté d'exorcisme, donc, peut-être.
Mais ça, c'est mon interprétation.
Non, mais justement, je pense que le fond et la forme, c'est la même. Enfin, je veux dire, c'est tellement imbriqué. Donc, Parce que ce matin, une femme me demandait, mais c'est beau vos objets. Je disais, bah, vous dites que c'est beau, mais ma voisine va peut-être dire que c'est moche. Mais c'est qu'il doit y avoir une telle adéquation. Une idée, c'est, en général, c'est pas très malin, hein, les idées des artistes. Mais il faut donner une forme, arriver à trouver une forme. Elle a trouvé sa forme, si je puis dire, et qu'elle est tellement évidente et tellement belle. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle parle à tout le monde. Elle devient universelle. Mais c'est pas toujours facile, justement, de trouver des idées. On peut en avoir des centaines, bonnes, mauvaises. C'est de les mettre en forme. Et je crois que dans toutes les sociétés, c'est pareil.
Je pense que moi, je parlerai pas des objets beaux, mais plutôt des objets forts. Et c'est ça qui est
dans l'œuvre. Et cette fois-ci, je pense que après cette conversation, on peut quand même pas tellement éviter ce mot qui vous agaçait un petit peu tout à l'heure, être messager. Dans les réalisations qui finissent par faire œuvre au long de sa carrière de Judith Scott, il y a une forme, comme vous le soulignez tout à l'heure, trouvée. Et on ne peut pas s'empêcher de sentir que cette forme est le vêtement d'un sens, d'une signification de son existence et d'une nécessité intérieure. Ce qui peut-être justifie le mot d'œuvre. Qu'en pensez-vous, Annette Messager?
Pour une fois, je suis un petit peu d'accord avec vous.
Et ça a pris quand même 50 minutes. Hein.
Et elle a fait une œuvre.
Oui.
Pour nous, mais pour, encore une fois, le regardeur, elle a fait une œuvre. Mais elle a fait ce qu'elle devait faire, ce qu'elle a pu faire après tant d'années à ne rien faire, à rester. Elle a trouvé la chose qu'elle devait faire. Et ça, trouver ce qu'on peut faire dans la vie, c'est une œuvre en soi.
Annette, en ceux qui regardent votre travail depuis une trentaine d'années ont l'impression que vous n'avez pas cessé de trouver, de chercher peut-être, mais de trouver.
Bon, comme on dit, il n'y a que des questions, il n'y a pas de réponse. Alors, ce ne serait pas drôle. Je cherche. En ce moment, je me suis aperçue qu'on était entouré d'interdictions aujourd'hui.
Oui.
J'étais dans un aéroport, j'étais entouré d'interdictions. Après, dans la rue, j'ai vu dans le café, partout. Partout des interdictions. Il y a des signes partout. Alors évidemment, comme je pense à ça, j'en vois partout. Et on est dans une société archi-puritaine et justement pas du tout permissive. C'est affreux de penser ça.
Et donc vous créez votre liberté à l'intérieur de cet espace un petit peu hyper sécurisé.
Hyper sécurisé.
Hyper interdit, hyper... contraignant.
Hyper contraignant.
Votre travail n'est pas un espace de liberté dans un monde contraignant?
J'ai la chance de ne pas vivre dans un monde très contraignant. J'ai cette chance inouïe et je me le redis tous les jours. Quelle merveille!
Merci Annette Messager d'avoir bien voulu commenter avec nous l'œuvre de Judith Scott.
Merci
Nanette Snop d'être venue nous éclairer de votre magnifique connaissance. Merci Sandra Adam.
Sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs. Aujourd'hui, nous avons parlé d'une œuvre de la fin des années 90, surnommée L'Escargot et réalisée par l'artiste Judith Scott. En fait, nous avons surtout parlé de Judith Scott et un peu moins de cette œuvre-là. Durant l'émission, vous avez pu entendre des musiques composées par le grand artiste et théoricien de l'art brut, un mot que n'aime pas beaucoup Annette Messager, Dubuffet. Par contre, elle aime beaucoup Jean Dubuffet. Vous retrouverez les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission Claire Poinsignon, lecture de texte Slimane Yefsa, à la technique Pierrick Charles. Réalisation Annabelle Brouard, Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam.
Come before you go, babe.